qui porte sur le sacerdoce et le sacrifice, puisque les deux notions sont unies étroitement. Il y a une espèce d'union transcendantale entre le prêtre et le sacerdoce, donc une union ne peut plus étroite. Alors, comme vous pouvez le constater, l'instruction sur la nouvelle messe, je ne l'ai pas faite en premier, mais je la fais en dernier. Je la fais en dernier pour deux raisons. Tout d'abord parce que, pour comprendre la gravité de la nouvelle messe, il faut savoir ce que c'est que la messe. Et donc, il fallait auparavant parler de la messe. Mais aussi pour vous montrer que dans le ministère, je cherche toujours à tout d'abord donner aux fidèles le pain de la vérité. Mais ensuite, comme on ne peut pas séparer l'amour de la vérité de la haine de l'erreur, après avoir développé la vérité, je me dois aussi, malgré tout, de mettre en garde contre les erreurs de notre temps. Mais cela se fait dans un second temps. Et c'est très important pour nous-mêmes aussi d'avoir toujours ce souci, à la fois d'avoir cet amour de la vérité, cette haine de l'erreur, mais d'avoir toujours cet équilibre. Certaines personnes disent « oui, l'essentiel c'est d'avoir l'amour de la vérité », et donc on oublie les erreurs, alors que quand on éduque un enfant, on ne se contente pas de lui donner le côté positif, on le met en garde aussi contre les dangers qui le menacent. Et puis d'autres personnes peut-être pourraient tenter à l'inverse de se contenter de cette partie négative. Et ce n'est pas non plus, je pense, la meilleure solution. Il faut essayer d'unir les deux. Alors, la messe, donc nous en avons parlé la dernière fois, il y a deux semaines, le Saint-Sacrifice de la messe. Alors, je ne vais pas revenir sur les notions que j'ai déjà données la dernière fois, mais je vais essayer d'aborder tout de suite cette question de la nouvelle messe. Pour cela, je rappellerai quand même comment est arrivée la messe dite de Saint Pie V, au moins brièvement. Devant la multiplication des rites du XVIe siècle, au XVIe siècle, qui véhiculaient la foi de toujours, mais avec des expressions différentes, le pape Saint Pie V a voulu, pour éviter le danger de nouveauté, et en même temps pour manifester plus clairement l'unité de l'Église, il a voulu ne conserver que le rite romain et les rites anciens de plus de 200 ans. Comme le rite lyonnais, le rite dominicain ou le rite ambrosien. Mais le rite dit de Saint Pie V était bien plus ancien que Saint Pie V, puisque le dernier pape à l'avoir touché était justement Saint Grégoire le Grand, qui est le saint patron de l'Institut. Saint Grégoire le Grand qui a été pape de 590 à 604. Donc beaucoup de personnes nous disent... Oui, vous êtes attaché à cette messe du XVIe siècle, mais Saint Pie V a fait cette messe au XVIe siècle, alors pourquoi ne pas faire une autre messe aujourd'hui, 400 ans plus tard? Eh bien, cet argument ne vaut pas, parce que le dernier pape à avoir touché à la messe dite de Saint Pie V, c'est Saint Grégoire le Grand. Et encore, le plus gros de la messe nous vient même des apôtres. La partie essentielle de la messe nous venait des apôtres. Alors si déjà on est convaincu de cette tradition qui existait donc dans la messe, sur l'aspect traditionnel de la messe dite de Saint Pie V, on comprend qu'il fallait une raison vraiment grave pour toucher à ce rite. Et que c'était même périlleux de le faire. Ainsi le père Louis Bouillet disait « Le canon romain tel qu'il est aujourd'hui remonte à Saint Grégoire le Grand. » Il n'existe ni en Orient ni en Occident aucune prière eucharistique qui, demeurée en usage jusqu'à nos jours, puisse se prévaloir d'une telle antiquité. Non seulement au jugement des orthodoxes, mais également au regard des anglicans et même à ceux des protestants qui ont conservé un certain sens de la tradition, rejeter ce canon équivaudrait de la part de l'Église romaine à renoncer pour toujours à la prétention de représenter la véritable Église catholique. Donc, ce que veut dire le père Bouvier, c'est que l'Église catholique, c'est l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Le signe de la véritable Église, un des signes de la véritable Église, c'est justement son antiquité. C'est donc l'unité de foi dans le temps. L'Église est dite catholique, elle est dite aussi apostolique. Et ce caractère d'apostolicité, c'est justement l'unité de l'Église dans le temps. S'il y a une rupture dans le temps, dans le contenu de ce qui est véhiculé dans la foi, en ce moment-là, l'Église ne peut plus se prétendre être la véritable Église. Une des marques de la véritable Église, c'est cette unité dans le temps. S'il y a une rupture dans cette unité, en ce moment-là, ce n'est plus la véritable Église. Donc c'est un argument de poids. On voit toujours que l'argument de tradition dans l'Église est toujours un argument de poids. On le voit par exemple pour le choix de la Vulgate comme édition officielle des Bibles en latin. Pourquoi on a gardé la Vulgate comme traduction? Eh bien, en raison de son antiquité. Donc l'antiquité, c'est une valeur qui est très, très importante dans l'Église. Et tout simplement parce que le rôle de l'Église est de transmettre. Tradere, tradition, tradere veut dire transmettre. Le rôle de l'Église, ce n'est pas d'inventer une doctrine, le rôle de l'Église, c'est tout simplement de transmettre la doctrine de notre Seigneur. Bossuet disait, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Donc on n'a pas à inventer un autre Christ, on a simplement à répandre la vérité que Jésus-Christ est venu nous enseigner. Donc il doit y avoir cette unité dans le temps. Et c'est pourquoi Saint Pie V, qui peut-être avait eu une vision de ce qui devrait se passer un jour, pour éviter cela, en codifiant sa messe dans la bulle Coprimum, il avait écrit « Celui qui oserait porter la main contre cette œuvre, qu'il sache encourir la colère du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. » Donc dans sa bulle Coprimum, où il codifiait cette messe dite de Saint Pie V, le 19 juillet 1570. Alors après ces remarques préliminaires, maintenant, on va essayer de voir si la nouvelle messe a conservé intégralement la foi véhiculée dans la messe traditionnelle. Mais auparavant, je pense qu'il est encore important de faire quelques remarques. L'analyse que je vais faire, c'est une analyse de la messe en elle-même, indépendamment de celui qui la célèbre. Je me pose comme question, la nouvelle messe est-elle vraiment catholique ou est-elle, comme le concile, ambiguë, protestantisante ou équivoque? Lorsque l'on veut juger la moralité d'un acte, on regarde tout d'abord son objet, on regarde ensuite l'intention de celui qui pose cet acte et on regarde ensuite les autres circonstances. Ainsi, par exemple, tuer un innocent, c'est une action mauvaise, quelle que soit l'intention de celui qui commet le crime. Voler, c'est un mal. Faire l'aumône, c'est une action qui est bonne. Alors bien sûr que pour qu'une action soit bonne, il faut qu'elle soit en elle-même ou bonne ou indifférente, au départ. Il faut ensuite avoir une intention droite. Il faut ensuite poser cette action dans le lieu voulu, dans le temps voulu, dans le temps marqué et avec toutes les circonstances voulues. Mais si une action est viciée dès le départ, la meilleure intention ne pourra pas la rendre bonne. On le comprend très bien d'ailleurs quand on prend des exemples simples. Si on vous donne à manger un fruit empoisonné, vous n'allez pas manger le fruit empoisonné sous prétexte que c'est quelqu'un qui vous aimerait, soi-disant, qui vous présenterait le poison. Si c'est empoisonné, ça suffit pour ne pas que vous preniez de ce poison. Vous n'allez pas regarder, oui mais attendez, je vais regarder les circonstances, c'est vrai qu'il fait chaud, alors c'est une boisson qui est fraîche qu'on me donne, donc je vais peut-être la boire. Eh bien non, c'est empoisonné, c'est tout, vous n'allez pas plus loin. Vous ne regardez pas celui qui vous la donne. Donc ensuite, si on arrive à démontrer, ce n'est pas encore fait, que cette nouvelle messe est une messe qui ne véhicule plus intégralement la foi catholique, eh bien, même si le prêtre qui célèbre la messe est gentil, même s'il est pieux, même s'il est sympathique, cela ne doit pas rentrer en ligne de compte dans l'assistance à la messe. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est la moralité. Dans la moralité de l'acte, il faut regarder l'objet de l'acte lui-même, indépendamment de celui qui la célèbre. Donc, au sujet de la messe, pour ce qui regarde la messe. Par ailleurs, élément très important, la messe que nous allons analyser ce soir, ce n'est pas la messe hypermoderniste que l'on peut voir ici ou là, mais c'est la messe telle qu'elle est apparue le 3 avril 1969, donc c'est la promulgation du Missale Romanum, et le 11 mai 1970, c'est la première édition typique du Missel, avec les quatre canons qui ont été proposés à ce moment-là. Alors, question que nous nous posons, la nouvelle messe est-elle intégralement catholique? Est-ce qu'elle véhicule vraiment la foi de toujours? Est-ce que la nouvelle messe, c'est tout simplement une autre manière d'exprimer la même réalité du Saint-Sacrifice de la messe, ou bien est-ce qu'elle est porteuse d'une autre signification? C'est la question qu'on se pose. Alors pour cela, pour répondre à ces questions, nous allons analyser la nouvelle messe tout d'abord sous l'angle de la présence réelle, ensuite sous l'angle du sacrifice, et enfin sous l'angle du sacerdoce. La nouvelle messe est la présence réelle. Dans l'Institutio Generalis, qui est le texte qui introduit la nouvelle messe, on constate qu'il n'y a aucune allusion à la présence réelle et permanente du Christ avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Le mot même de transsubstantiation ne figure nulle part. Ensuite, au cours de la messe, il n'y a plus l'invocation au Saint-Esprit, la prière Veni Sanctificator Omnipotens Deus, où on faisait appel au Saint-Esprit qu'il descende sur les oblats, comme jadis il était descendu dans le sein de la Très Sainte Vierge, pour y accomplir le miracle de la divine présence. Ensuite, on peut noter l'altération des gestes qui expriment la présence réelle. Par exemple, les génuflexions, dont le nombre est réduit à 3 par le prêtre célébrant et à une seule pour l'assistance au moment de la consécration. Et là aussi, il y a un élément à considérer, à mon avis important. Dans la messe traditionnelle, à chaque consécration, vous avez une génuflexion. Ensuite, vous avez l'élévation, le prêtre élève le corps de notre Seigneur et le précieux sang, et ensuite une génuflexion. Le fait de faire la première génuflexion juste après avoir prononcé les paroles de la consécration montre que l'on croit que notre Seigneur est vraiment là en vertu des paroles de la consécration. Dans la nouvelle messe, on a supprimé la première génuflexion. Donc, il y a l'élévation qui est suivi la génuflexion. Eh bien, cette façon de faire est maintenant susceptible d'une interprétation protestante. En effet, pour le protestant, lorsque le prêtre élève l'hostie, à travers ce geste, il engage sa foi au Christ. Et les fidèles qui sont là présents engagent leur foi au Christ en voyant l'hostie. Et c'est cet engagement personnel au Christ qui rend le Christ spirituellement présent. Alors, bien sûr, s'il est là, en ce moment-là, rendu spirituellement présent par cet engagement de la foi du fidèle au Christ, en ce moment-là, ensuite, et ensuite seulement, on peut faire la génuflexion, donc on peut l'adorer. Et on a supprimé la première génuflexion qui manifestait que notre Seigneur était là, objectivement, indépendamment de la pensée même des fidèles. Ce n'est pas les fidèles qui rendent le Christ présent, c'est le prêtre et le prêtre seul. Je ne dis pas que c'est ce que les prêtres pensent nécessairement en agissant ainsi, mais je dis que cette façon d'agir, en tout cas, est au moins susceptible d'une interprétation protestante. De même, le nouvel ordo élimine la purification des doigts du prêtre au-dessus du calice et dans le calice, prière donc du lavabo avec la purification des doigts, ensuite la préservation de tout contact profane pour les doigts du prêtre après la consécration. Depuis la consécration jusqu'au moment de la communion, le prêtre tient le pouce et l'index unis l'un à l'autre pour éviter que des parcelles d'hostie qui seraient sur les doigts ne tombent par terre. Eh bien, cela n'existe plus non plus dans la nouvelle messe. Ensuite, on a supprimé également la palle qui protégeait le calice et qui protégeait donc le calice des poussières qui pourraient tomber pendant la messe. Ensuite, on a supprimé également la dorure intérieure des vases sacrés, ainsi que la consécration de l'autel, la pierre sacrée et les reliques. Les trois nappes sont réduites à une seule. Si on mettait trois nappes, c'est pour le cas où il y aurait un incident. Si tout le précieux sang ne pourrait pas être épongé par la première nappe, il pourrait l'être par celle qui serait en dessous. Et le fait qu'il n'y en ait qu'une seule donc, entraîne un plus grand danger en cas d'incident. Ensuite, l'action de grâce que le prêtre fait assis pendant la messe. Donc, juste après avoir communié, le prêtre va s'asseoir. La suppression des purifications lorsqu'une hostie tombe par terre, il n'est plus fait mention dans les rubriques de la nécessité de purifier une fois qu'une hostie est tombée par terre. Alors, chaque suppression peut être prise comme cela n'est pas significative, mais l'ensemble de ces suppressions ne fait qu'accentuer, en tout cas, la répudiation implicite du dogme de la présence réelle. Également à souligner le ton narratif à la nouvelle messe, de la formule de la consécration, qui remplace le ton intimatif de la messe traditionnelle. Alors ici, je cite... Superficiellement considéré, le canon romain ne semble avoir souffert que d'insignifiantes modifications. Une analyse attentive, donc le canon romain, c'est sur les quatre canons qui ont été promulgués dans la nouvelle messe, c'était celui qui était le plus proche du canon traditionnel. Donc, superficiellement, il n'y a pas grande différence. Mais une analyse plus attentive révèle cependant que les changements introduits tendent en général, parfois d'une manière subtile, à accommoder dans le texte la conception de l'Eucharistie comme de simples agapes accomplies par la communauté. Et donc ici, il indique cette question typographique. Dans la messe de Saint-Pie-V, il y a une claire séparation typographique entre la partie narrative de la consécration et les mots qui réalisent la transsubstantiation. Pour indiquer d'une manière indubitable que ces derniers sont dits affirmativement dans la personne du Christ et non pas simplement narrativement, comme s'il s'agirait simplement de faire mention de quelque chose de passé, le texte primitif se termine par un point, donc de la messe traditionnelle. Ainsi, il devient clair qu'à ce moment-là, le prêtre commence à parler au nom de notre Seigneur. De plus, les expressions qui renferment les mots de la consécration sont imprimées en gros caractères. Dans le nouvel ordo, le texte précédant les mots de la consécration se termine par deux points, non plus par un point. Et bien que les gros caractères soient conservés dans les expressions de la consécration proprement dites, de nouvelles phrases ont été ajoutées, de sorte qu'un plus grand nombre de mots non essentiels à la transsubstantiation apparaît en gros caractères. Évidemment, c'est un pas de plus qui conduit facilement à l'idée que la consécration n'est rien d'autre qu'une narration historique de l'institution de l'Eucharistie. Il y a une grande différence entre le fait que le prêtre dise la veille de sa passion, le Christ prit du pain, il dit « Prenez et mangez, car ceci est mon corps ». Ça, c'est absolument narratif. Et le fait qu'il dise la veille de sa passion, le Christ dit « Prenez et mangez-en tous », il s'arrête, et puis il dit ensuite « Ceci est mon corps ». Parce qu'en ce moment-là, ça veut dire que pour les derniers mots, il agit vraiment dans la personne du Christ. Tandis que sinon, on a l'impression que c'est un texte qui raconte un événement passé. Au moins, ça a encore susceptible d'interprétation protestante. Ce qui accentue cette interprétation, c'est l'acclamation qui suit la consécration. Sur les trois textes officiels, il y en a deux où il est fait allusion au retour du Christ dans la gloire. Donc on dit, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. On dit qu'on attend la venue du Christ dans la gloire comme s'il n'était pas présent à ce moment-là sur l'autel. Et qu'il faudrait attendre la fin des temps pour sa véritable venue. Ce terme, jusqu'à ce que tu viennes, ou dans ta venue dans la gloire, manifeste encore l'interprétation protestantisante. Tous ces éléments suffiraient pour montrer que la nouvelle messe ne manifeste plus comme la messe traditionnelle la foi en la présence réelle, mais malheureusement, le coup de grâce est encore donné par l'article 7 de l'institutio generalis, donc toujours ce texte qui introduit la nouvelle messe. Et voici la définition qui était donnée. Après, on verra qu'il y aura une version modifiée, mais qui était donnée au départ dans l'annonce de la nouvelle messe. La scène dominicale ou la synaxe sacrée, où le rassemblement du peuple de Dieu se réunissant sous la présidence du prêtre pour célébrer la scène dominicale, pardon, est la synaxe sacrée, où le rassemblement du peuple de Dieu, donc c'est synonyme, se réunissant sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi vaut éminemment pour l'assemblée locale de la Sainte Église la promesse du Christ, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Cette définition, en fait, est une définition protestante, ni plus ni moins. On dit que, premièrement, ils définissent comme étant la scène. Ensuite, c'est le rassemblement du peuple de Dieu, donc c'est plus le prêtre qui officie, mais c'est l'ensemble de la communauté, et c'est la base qui dirige. Se réunissant malgré tout sous la présidence du prêtre, le prêtre n'est plus le ministre, mais simplement le président, alors on peut dire qu'il est encore très monté en grade, comme disait quelqu'un. Dans la messe traditionnelle, il était ministre, il est passé président de la nouvelle messe. Pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi vaut éminemment pour l'assemblée locale de la Sainte Église la promesse du Christ, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Comme si la présence de notre Seigneur dans l'Eucharistie était simplement une présence spirituelle et non plus une présence physique, présence sacramentelle. Alors ici, il faut savoir quand même que cette définition a provoqué un tollé chez les évêques traditionnels, si bien que à Rome, ils ont été obligés de modifier cette définition de la nouvelle messe. Mais vous pouvez constater, malheureusement, qu'ils ont modifié la définition qui introduit la nouvelle messe, mais ils n'ont pas du tout modifié la nouvelle messe. Or, ce texte qui introduisait la nouvelle messe montrait bien ce qu'était la nouvelle messe pour ceux qui l'ont composée. Par conséquent, si vraiment cette définition n'était pas une définition convenable, il ne fallait pas non seulement changer cette définition, mais il fallait changer en même temps la nouvelle messe qui était introduite par cette définition. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Et comme on dit toujours, on reconnaît le serpent à sa queue. Donc les artisans de la nouvelle messe ont bel et bien exprimé ouvertement leurs intentions à travers cette présentation qui est ni plus ni moins protestante. La nouvelle messe maintenant est le sacrifice eucharistique. Après avoir vu la nouvelle messe et la présence réelle, voyons la nouvelle messe et le sacrifice eucharistique. La messe est avant tout un sacrifice. La communion, c'est le fruit du sacrifice, nous l'avions dit la dernière fois. Le mot hostie signifie victime. Donc à la messe, nous communions à la divine victime qui a été offerte et qui a été immolée sur l'autel. Or, toute la structure de la nouvelle messe accentue l'aspect repas de la célébration au détriment du sacrifice. Les preuves. Tout d'abord, la substitution de l'autel du sacrifice par une table. Il est évident que si la messe est un repas, il est normal qu'on se réunisse autour d'une table et non pas autour d'un autel qui serait dressé face à la croix, face au calvaire. Deuxièmement, le développement de la liturgie de la parole au détriment de la liturgie eucharistique, comme il l'appelle. Donc la deuxième partie de la messe est bâclée. Alors qu'ils ont accentué, ils ont rajouté des prières et des passages de l'Ancien Testament dans la liturgie donc dite de la parole. Ensuite, troisième élément, la suppression de l'offertoire et le remplacement par l'offrande des dons. Dans l'offertoire traditionnel, comme je vous l'avais dit dans l'instruction sur la messe traditionnelle, sur la messe, tout court, je vous avais parlé que dans l'offertoire, le prêtre offre l'hostie sainte et sans tache et le calice du salut. Et à la nouvelle messe, le prêtre offre le fruit de la terre et du travail des hommes. Donc, dans la nouvelle messe, on a détaché la partie offrande du reste de la messe. Alors que dans la messe traditionnelle, on offre la victime avant qu'elle soit immolée et qu'ensuite elle soit consommée. Il y a donc une unité. Il était nécessaire, on le voyait déjà dans l'Ancien Testament, avant d'immoler une victime, de la retirer du profane et pour cela de l'offrir au bon Dieu. C'était ce qui était manifesté par l'offrande de la victime, donc par l'offertoire. Tandis qu'ici, on offre le fruit de la terre et du travail des hommes, donc on offre du pain et du vin. Et puis ensuite, il y a la consécration, mais qui apparaît comme étant autre chose. Il n'y a plus de lien direct entre les deux. Et ceci est d'autant plus important à signaler que Luther, le premier, s'était insurgé contre cette présence de l'offertoire de la messe catholique. Alors bien sûr, c'est vrai qu'au moment de l'offertoire, notre Seigneur n'est pas encore présent. Mais c'est bien en vue du sacrifice qui va s'accomplir que le prêtre détache l'hostie du profane, qui la sépare du profane, pour la rendre sacrée. Ensuite, il faudrait ajouter aussi, au moment de la consécration, la suppression du mysterium fidei, le mystère de la foi, qui indique bien une preuve, l'adhésion de notre intelligence à ce mystère de foi qui nous dépasse. C'est donc une profession de foi immédiate après la consécration. Et ce mysterium fidei a été supprimé dans la nouvelle messe. Également, il y a une transformation de l'anamnèse, c'est-à-dire de la prière qui suit la consécration, où l'accent sera mis à nouveau sur le mémorial, comme s'il s'agissait, encore une fois, de ne faire référence que d'un événement passé, comme si rien ne se produisait là, présentement, sinon une simple présence spirituelle. Ensuite, sur les quatre prières eucharistiques proposées, seul le canon romain fait mention du sacrifice, mais lui-même est mutilé dans la consécration, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et il est mutilé également par la suppression de nombreux signes de croix et de génuflexion. Et de plus, très souvent, les traductions en langue vernaculaire accentuent encore ces déficiences. Troisième aspect, la nouvelle messe maintenant est le sacerdoce. Quelle est la situation des fidèles dans le nouveau rite ? Bien, on le voit dans la définition de la messe, comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'article 7. La messe, c'est le rassemblement du peuple de Dieu. Et cela, c'est une conséquence du Concile Vatican II. La nouvelle messe, c'est vraiment le fruit du Concile Vatican II. Dans le Concile Vatican II, on voit qu'il s'était attaché à la notion de l'Église et le Concile Vatican II avait abouti à une nouvelle conception de l'Église et en particulier avec cette notion démocratique, cette démocratisation de l'Église et cette conception horizontale, on pourrait dire, de l'Église, avec la diminution du sens de la hiérarchie et la confusion des rôles entre les prêtres et les laïcs. Eh bien, ici, c'est la même chose. Le caractère communautaire de la messe revient ici comme une obsession. On insiste lourdement sur le sacerdoce des fidèles, comme s'il n'y avait pas de différence entre ce soi-disant sacerdoce des fidèles qui pourrait être interprété d'une façon juste, et le sacerdoce des prêtres qui est d'un autre ordre. Or, justement, les luthériens et les calvinistes affirment que tous les chrétiens sont prêtres et que par suite tous offrent la scène. Donc, à nouveau, on retrouve une analogie avec la conception protestante. La situation du prêtre dans le nouveau rite. Le prêtre apparaît comme le président et le frère, mais il n'est plus le ministre consacré, célébrant in persona Christi, célébrant dans la personne du Christ. La concélébration fait perdre l'aspect de prêtre autre Christ. Le prêtre, à nouveau, se fond dans la communauté. La dimension communautaire se trouvait à la base, à travers donc les fidèles, et elle se retrouve également ici dans la hiérarchie. C'est sûr que la présence centrale du Christ, qui est prêtre unique et victime, est dissoute dans la présence collective des concélébrants. Situation ensuite de l'Église maintenant dans le nouveau rite. Dans le rite de la nouvelle messe est omise très souvent la conclusion que l'on retrouvait tout au long de la messe traditionnelle, Per Christum Dominum Nostrum. Donc la médiation de notre Seigneur Jésus-Christ est passée sous silence. Le peuple de Dieu apparaît comme un peuple en marche. C'est encore une idée très nouvelle. Mais on ne sait pas dans quelle marche on a. Dans quelle marche on a. Dans quelle direction on avance. Mais on sait qu'on avance. Donc c'est l'essentiel. Parce qu'il faut évoluer, comme vous le savez. Donc le peuple de Dieu apparaît plus comme un peuple en marche que comme l'Église militante qui combat contre la puissance des ténèbres. Ensuite, dans la prière eucharistique numéro 4, la prière du canon romain, qui disait où l'on priait pro omnibus orthodoxis atque catholice fidei cultoribus, tous ceux qui ont la garde de la foi catholique, s'est remplacé par pour tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Pas tout à fait la même chose. Dans le memento des défunts, de la même manière, il était mentionné dans la liturgie traditionnelle, on parlait de ceux qui sont marqués du signe de la foi et qui dorment du sommeil de la paix. Ceux qui sont marqués du signe de la foi. Eh bien, ça s'est remplacé tout simplement par ceux qui sont morts dans la paix du Christ. Et encore, l'allusion à la foi est supprimée. Et on leur adjoint en plus l'ensemble des défunts dont toi seul connais la foi, ce qui porte atteinte à l'unité visible, à l'unité de l'Église visible. Ensuite, dans aucune des trois nouvelles prières eucharistiques ne figure la moindre allusion à la souffrance des trépassés, ce qui émousse la foi à la nature propitiatoire du sacrifice. Encore un point qui sépare les catholiques des protestants. À la limite, les protestants veulent bien d'un sacrifice de louange, un sacrifice d'action de grâce, mais surtout pas d'un sacrifice propitiatoire. Ils ne croient pas en la valeur rédemptrice de la messe. Pour eux, tout s'est accompli sur la croix. La messe, il n'y a rien de nouveau qui s'accomplit à ce niveau-là. Or, la messe est avant tout un sacrifice propitiatoire. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on le dit, qu'on applique la messe aux défunts. Et qu'on dit là, pour que le bon Dieu efface les péchés des défunts. On a supprimé également dans le canon les noms de Saint Pierre et Paul et des autres apôtres qui sont justement le fondement de l'unité et de l'universalité de l'Église, sauf dans le canon romain. À tout ceci s'ajoute encore l'usage de la messe face au peuple et non plus face à Dieu. On a l'impression que c'est plutôt un culte qui est rendu à l'homme que le culte qui est rendu à Dieu. Ensuite, l'usage de la langue vernaculaire, marque de désacralisation et également imprécision. C'est encore une atteinte à l'unité de l'Église. On n'a jamais autant parlé d'unité de l'Église qu'aujourd'hui, alors que cette pluralité de langues, eh bien, est bien une atteinte à cette unité. Quand on va à Lourdes et qu'on entend le chapelet avec un Je vous salue Marie en italien, l'autre en espagnol, un autre en anglais, et puis enfin le dernier en latin, pourquoi ne pas dire tout en latin? Au moins, il y aurait une langue commune. Et autrefois, quand on voyageait, on allait en Allemagne, on allait en Espagne, on allait dans n'importe quel pays, au moins à la messe, on s'y retrouvait. Tandis que maintenant, avec la messe en langue vernaculaire, on y perd son latin. Ensuite, il faudrait encore ajouter l'ensemble de la messe qui est dite à voix haute et qui empêche le recueillement, qui fait penser que le prêtre est là avant tout pour les fidèles et non plus pour Dieu. Donc, conclusion qu'on pourrait donner, sachez-le, encore une fois, je n'ai pris que le modèle de la messe tel qu'il est paru en 69 et 70. Donc, il ne s'agit pas des excès de la nouvelle messe que l'on peut voir aujourd'hui. Et même pour toutes les remarques, on pourrait prendre le texte latin. Donc, ce n'est pas non plus une question de latin. Mis à part pour ce que je viens de dire maintenant, qui ne fait qu'encore accentuer les déficiences. Alors bien sûr que chaque suppression et chaque changement pris individuellement ne pourrait pas permettre de tirer une conclusion claire et certaine. Mais tant d'éléments convergents ne laissent pas de place au doute. La nouvelle messe est vraiment protestantisante. Elle a perdu son sens pleinement catholique au profit d'une théologie qui n'est pas catholique. Et c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle est arrivé les cardinaux Ottaviani et Bacci. Le nouvel ordo missae, si l'on considère les éléments nouveaux, susceptibles d'appréciations fort diverses qui paraissent sous-entendues ou impliquées, s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe, telle qu'elle a été formulée à la 20e session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du mystère. Donc, la nouvelle messe s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la messe. Confirmation de la thèse. Là, pour l'instant, la seule chose que j'ai fait, c'était de voir la messe en elle-même, de regarder les textes, et de comparer les textes avec la messe traditionnelle. Maintenant, autre élément qui pourra nous aider, malheureusement, à confirmer la thèse que nous venons d'énoncer, c'est de voir par qui la nouvelle messe a été composée et dans quel but. Eh bien, la messe est essentiellement l'œuvre de Mgr Bunini, qui était hyper moderniste et écuméniste. Il a été secondé dans son travail par de nombreux protestants, et c'est ainsi qu'il a cherché à éliminer systématiquement de la messe catholique tout ce qui pouvait déplaire aux protestants, afin de permettre un rapprochement des deux religions. Donc la nouvelle messe doit être comprise dans la même ligne que le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II s'est voulu un concile écuménique, non seulement dans le sens traditionnel, mais dans le sens moderne. On a voulu ouvrir les portes aux frères séparés. Et le principe de l'écuménisme, tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est « oublions ce qui nous sépare et regardons ce qui nous unit ». On cherche le plus petit dénominateur commun et on met sous le boisseau tout ce qui peut choquer les frères séparés. Alors encore une fois, le problème de la nouvelle messe, c'est le même problème que le concile, le même problème du concile. Je ne dis pas que la messe est peut-être serait directement hérétique en elle-même, mais elle favorise l'hérésie, dans le sens où elle ouvre la voie à des interprétations protestantes. Alors le catholique qui dira la messe avec un esprit catholique, peut-être qu'il pourra donc produire le sacrifice de la messe, mais s'il n'a plus cet esprit-là, en ce moment-là, il ne pourra plus rendre présent notre Seigneur sur l'autel s'il n'y croit plus lui-même. Donc on met sous le boisseau tout ce qui peut choquer les frères séparés. Or, il faut savoir que la messe traditionnelle était l'un des plus grands obstacles de l'écuménisme. Luther, le jour de sa première messe, avait dit qu'il se serait enfui si son servant de messe ne l'avait retenu. Alors qu'en général, après la première messe, c'est plutôt le plus beau jour de sa vie. Mais Luther, donc, déjà ce jour-là, apparemment, donc, il y avait quelque chose en lui qui n'était pas très clair. Il abhorrait, comme il disait, l'affreuse messe papiste. C'est pourquoi il avait dit « Détruisez la messe et vous détruirez l'Église ». Sous-entendu, bien sûr, l'Église catholique. Or, aujourd'hui, que voyons-nous ? Des protestants qui acceptent de dire la nouvelle messe. Vous n'auriez jamais vu un protestant dire la messe traditionnelle. Pour les raisons que j'ai signalées tout à l'heure, à cause des différences dogmatiques qu'il y a entre les catholiques et les protestants. Alors, dans la mesure où on a enlevé tout ce qui pouvait choquer les protestants, bien sûr, maintenant, les protestants peuvent dire cette messe. Et cela suffit pour montrer que la messe est protestantisante. La preuve, c'est que les protestants acceptent de dire cette messe. Maintenant se pose la question de la validité de la messe. Normalement, la validité d'un sacrement, pour qu'un sacrement soit valide, il faut trois choses. Il faut la matière, il faut ensuite utiliser la bonne matière, il faut ensuite utiliser la bonne forme, c'est-à-dire la bonne formule, et puis ensuite il faut avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. La matière pour la nouvelle messe, c'est le pain et le vin, comme pour la messe traditionnelle. Donc il n'y a pas de problème, question de la matière. La forme, c'est essentiellement la formule de la consécration. Et ensuite, l'intention, eh bien, c'est là que le problème est plus grave. Il faut avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Mais là où le prêtre n'a plus cette intention, eh bien, la messe n'est plus valide. Par exemple, je peux très bien dire la messe pour montrer à quelqu'un ce que c'est que la messe, mais je n'ai pas l'intention de célébrer la messe. Eh bien, à ce moment-là, la messe que je dis, bien sûr, n'est pas valide, parce que je suis là en train de faire une répétition pour quelqu'un. J'utilise la bonne matière, j'utilise la bonne forme, mais je n'ai pas l'intention de faire ce que fait l'Église. Donc, la messe n'est pas valide. Eh bien, là, c'est pareil. Si le prêtre ne croit pas en la présence réelle ou ne croit pas que la messe opère un sacrifice, mais s'il a simplement l'intention de faire mémoire, il n'a plus l'intention de faire ce que fait l'Église. Donc, à ce moment-là, sa messe n'est plus valide. Par contre, c'est vrai que si le prêtre, malgré les textes équivoques, a gardé son sens catholique, eh bien, la messe est probablement valide. C'est la position, en tout cas, officielle de la fraternité. Et je pense qu'elle est logique. Cependant, après la question de la validité, se pose toujours la question de la licéité. Si la messe est valide, elle est donc bonne. Non, je n'ai pas dit qu'elle était bonne. La question de la licéité, c'est autre chose. Par exemple, la messe dans l'église à côté, là, la chapelle orthodoxe, eh bien, leur messe est valide, parce que les orthodoxes utilisent la bonne matière, ils utilisent la bonne forme, ils ont l'intention de faire ce que fait l'Église, au moins lorsqu'ils célèbrent le Saint-Sacrifice de la messe. Donc leur messe est valide. Et pourtant, elle n'est pas licite. Il n'est pas permis d'assister activement à une messe orthodoxe. Donc Mgr Lefebvre disait toujours qu'il fallait suivre à l'égard de la nouvelle messe les règles que l'Église donnait auparavant pour ce qu'on appelait la communication in sacris, c'est-à-dire la communication avec les membres des autres religions pour ce qui regarde les choses sacrées. On distingue la communication in sacris de la communication in civilibus. Si votre banquier est juif ou si votre boucher est protestant, vous pouvez avoir quand même des communications avec lui, mais c'est des communications in civilibus, c'est pas in sacris. Par contre, après, quand il s'agit d'aller prier, ça c'est autre chose. Après, ça regarde les choses sacrées. Donc, concernant la communication in sacris, l'Église l'interdisait, la communication in sacris, avec les membres des autres religions, au moins d'une façon active. Mais l'assistance passive était permise pour des questions de civilité. Par exemple, si on a un ami qui est protestant, on peut très bien assister pour des questions de civilité à son mariage ou à son enterrement. Mais pas une participation active. On ne peut pas être témoin, normalement. On ne peut pas être normalement parrain. Dans le cas d'un baptême protestant. Alors, Mgr Lefebvre recommandait, il disait que si on était loin d'un centre de messe, eh bien, qu'il fallait lire la messe dans son missel et faire une communion spirituelle. Et lui, il prenait le cas de l'Afrique où il se trouvait. Quand il était en mission, il y avait beaucoup d'endroits où les missionnaires ne venaient que deux ou trois fois ou quatre fois dans l'année. Alors, le reste eh bien, du temps, eh bien, ils ne perdaient pas la foi pour autant. Donc, ils lisaient la messe dans leur missel et ils se sanctifiaient comme cela. Il faut toujours se dire qu'il y a le canal ordinaire de la grâce et il y a les canaux extraordinaires. Dans la mesure où on est dans une situation extraordinaire, le bon Dieu peut très bien se communiquer à nous d'une autre manière, dans la mesure où il n'y a aucune faute de notre part. Donc, parce que le drame, c'est que si en assistant souvent à la nouvelle messe, comme il disait en général, si vous assistez qu'une seule fois à la nouvelle messe, de temps en temps, si c'est très rarement, vous ne perdrez pas la foi, bien au contraire, parce que très souvent, l'assistance à cette nouvelle messe ne fera que vous conforter dans vos convictions. Mais ensuite, après, si on finit par s'y habituer, bien, on ne voit plus la différence. Et c'est comme ça que petit à petit, on peut perdre la foi. Donc on ne peut pas dire, je ne pense pas qu'on puisse dire que la nouvelle messe est l'objet d'une obligation pour le précepte dominical. On ne peut pas dire qu'elle oblige en conscience. Alors peut-être pour certains, parce que ceux qui n'ont pas compris la question de la messe, alors pour eux, c'est un autre problème. Je parle pour nous. Donc, et puis autre élément aussi important, dans cette étude, je ne cherche pas non plus à juger de la moralité de la messe concernant les prêtres qui la célèbrent, et encore moins de celle des fidèles qui y assistent. Ça, c'est le secret de Dieu. C'est le secret aussi de la conscience de chacun. C'est à nous, malgré tout, d'éclairer les consciences dans la mesure où on le peut. Pour nous, l'essentiel, c'est de savoir connaître les dangers de cette messe pour éviter d'y participer activement. Il faut toujours retenir, voyez, la formule « lex orandi, lex credendi ». Telle manière de prier, telle manière de croire. Si vous modifiez la manière de prier, vous finirez par modifier la manière de croire. Et la preuve, c'est que vous pourriez faire tout le tour des églises de Lyon, aller à la sortie des églises et faire des petites statistiques en disant « Croyez-vous en l'existence de l'enfer ? Croyez-vous en la médiation de la très sainte Vierge Marie ? Croyez-vous au péché originel ? Croyez-vous à la nécessité de se confesser pour communier ?» Vous pourriez poser quelques questions comme ça et vous verriez à la sortie ce que les gens vont vous répondre. C'est donc le signe qu'en assistant habituellement à cette messe, on finit par perdre la foi catholique. On n'apprend non plus la foi catholique. C'est une constatation. Pour perdre la foi, il suffit de nier un seul dogme de la foi. Après, il y a la question de l'ignorance vincible ou invincible. Donc ça, c'est encore le secret du bon Dieu. Mais malgré tout, c'est quand même objectif. Objectivement, on constate que les gens qui habituellement assistent à la nouvelle messe finissent par ne plus avoir le sens catholique. Alors je terminerai après aussi, simplement pour que vous ayez une bonne conscience en assistant à la messe traditionnelle, juste quelques passages de la bulle Quo Primum du pape Saint-Pie V lorsqu'il avait établi cette messe traditionnelle. Il l'avait bien marqué que cette messe pourrait être célébrée à perpétuité sans aucun scrupule de conscience. Par notre présente constitution, qui est valable à perpétuité, nous avons décidé et nous ordonnons, sous peine de notre malédiction, que jamais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié à notre missel que nous venons d'éditer. Nous concédons et accordons que ce même missel pourra être suivi en totalité, sans aucun scrupule de conscience et sans encourir aucune punition, condamnation ou censure, et qu'on pourra valablement l'utiliser librement et licitement, et cela à perpétuité. Et puis ensuite, il terminait en disant qu'absolument personne donc ne puisse déroger à cette page qui exprime notre permission, notre décision, notre ordonnance, notre commandement, notre précepte, notre concession, notre indulge, notre déclaration, notre décret et notre interdiction, ou n'ose témérairement aller à la rencontre de ces dispositions. Si cependant quelqu'un se permettait une telle altération, qu'il sache qu'il encourait l'indignation de Dieu Tout-Puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul. Donc je pense qu'avec un texte comme ça, on est quand même à l'abri de toutes les attaques. Alors voilà, vous voyez, cette étude sur la messe. À mon avis, elle est très importante. C'est très grave, malheureusement, parce que c'est le centre de notre foi. La messe, c'est le centre de notre foi. Et ça explique toute notre attitude, l'attitude de la fraternité Saint-Pédis, qui refuse de céder sur cette question de la messe. Parce que la messe est dans la ligne du concile. C'est sûr. Et c'est le concile et tout le concile qui est ambigu. La messe est le fruit du concile Vatican II. La messe est écuménique parce que le concile Vatican II était écuménique. Parce qu'aujourd'hui, on a une nouvelle conception de la religion. Au lieu d'avoir une conception de la religion comme autrefois, qui était est non, ce qui est, ce qui n'est pas, on a introduit du plus ou moins dans le but d'ouvrir les portes aux personnes qui n'ont plus la même foi que nous. Et c'est le dialogue qui autrefois servait comme point de départ d'une discussion qui pouvait être enrichissante et qui pouvait aussi surtout amener à la conversion des brebis égarées. On est passé de ce dialogue point de départ au dialogue fin. On a fait du dialogue une fin. Donc maintenant, on dialogue pour dialoguer. Donc que le protestant reste un bon protestant, le bouddhiste un bon bouddhiste, le témoin de Jéhovah un bon témoin de Jéhovah, pourquoi pas. Et puis, résultat, les âmes ne se convertissent plus. Et c'est triste. Et les catholiques, n'ont plus la foi catholique. Alors voilà où nous en sommes, malheureusement.
Amen. Amen.